Amis du cinéma, bonjour et bienvenue dans ce continent immense et mystérieux qu'est le 7e art. Comme chaque dernier mercredi du mois, je suis en compagnie des experts. L'association Profil Sine Qua Non, une association de passionnés des salles obscures qui se regroupe pour parler cinéma. C'est un regard, une analyse sur différents films qui sont encore à l'affiche ou parfois sur un film coup de cœur. Alors si vous êtes amateur, fan ou professionnel et que vous souhaitez rejoindre une association fort sympathique, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous mettrons en relation avec Profil Sine Qua Non. Du côté de Nîmes et de son agglomération, installez-vous confortablement sur le 103.1 via Radio Alliance Plus. Sinon, du côté de Montpellier et de son agglomération, sur le 91 MHz Radio FM Plus. Je me tourne vers mes chers experts. Alors, experte numéro 1, bonjour Dominique, qui est une fille, je précise.
Bonjour.
Ça va ?
Je suis toujours une fille, oui.
Bon. Experte numéro 2, bonjour Arlette.
Salut, bonjour, me voilà, je suis là.
Bon. Experte numéro 3, Maggie, bonjour Maggie.
Eh oui, c'est moi, bonjour.
Ensuite, place à ces messieurs. Bonjour mon cher Claude.
Oui, bonjour.
Ça va Claude ?
Toujours.
Bon, promis, la prochaine fois, je vous classerai expert numéro 1. Parce que là, il y a Dominique, alors je ne veux pas la contrarier. Mais on s'arrangera hors micro.
Voilà.
Jean est parmi nous également. Bonjour Jean.
Et voilà, je suis en queue là maintenant, mais peut-être la prochaine fois, je serai en première.
Ah ben oui, exact, oui. Voilà, mais on s'arrangera hors antenne, vous verrez.
D'accord, très bien. Ok.
Au menu de ce mercredi, si je vous dis film réalisé par Paweł Pawlikowski, il s'agit bien sûr de...
Ida.
C'est moi qui l'ai dit.
Film polonais, sorti le 12 février dernier. Il y aura également un film brésilien réalisé par Kleber Mendoza Filho, avec pour titre Les bruits de récif, sorti le 26 février dernier. Ensuite, nous parlerons de Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Et nous terminerons, comme toujours, avec Le sens de l'humour, qui est un titre, bien sûr. Film réalisé par Marilyn Canto, sorti également le 26 février. Dans la Pologne des années 60, avant de prononcer ses vœux, Anna, jeune orpheline élevée au couvent, part à la rencontre de sa tante, seul membre de sa famille encore en vie. Elle découvre alors un sombre secret de famille datant de l'occupation nazie.
Jestem pani siostrzenicą.
Wiem, kim jesteś. Urodziłaś się w piaskach. Nazywasz się Ida Lebenstein. Nie powiedziały ci przez tyle lat. Więc jesteś żydowską zakonnicą.
Il s'agit bien évidemment du film réalisé par Paweł Pawlikowski, Ida. Alors, mesdames, messieurs, Ida, qui a vu Ida ?
Oui.
Oui.
Moi, je viens commencer à parler.
Maggie.
Je vais d'abord évoquer l'atmosphère dans la salle lorsque j'ai vu ce film. Mm-hmm. On peut penser quand même qu'il est assez austère et que peut-être le public pouvait être surpris. Enfin, bien sûr, s'il n'avait pas lu les critiques avant. Et j'ai été absolument soufflé par le respect qu'il y avait dans la salle, le silence, jusqu'à la fin, complètement la fin du générique de fin, un silence qui était aussi fort, je crois, que le film lui-même. Donc ça m'a beaucoup frappé, et donc ça m'a paru le signe que les gens rentraient quand même dans ce film assez difficile, enfin en tout cas pas très attrayant, disons.
Mais si je peux me permettre, Maggie, je pense que ce silence était aussi le reflet de ces plongées fulgurantes au cœur de la solitude.
Certainement, mais j'ai été frappée aussi par le fait que ce silence accompagnait le défilé sur le générique d'un très grand nombre de musiques qui étaient dans le film et que je n'avais même pas remarqué, au point que j'avais eu l'impression que le film était presque tout le temps silencieux, à part les dialogues bien sûr. Et en fait, il y a de la musique dans ce film, et une musique qui n'arrive pas à rompre cette solitude dont vous parlez justement.
Il faut dire qu'il arrive à lier Bach et Coltrane, jazz donc, et musique classique, la bande son est remarquable, à mon sens.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un film en noir et blanc. avec un cadre donc carré, donc comme les vieux films noir et blanc de l'époque, et que ça se passe entre, en fait, c'est la confrontation de ces deux personnes qui ne devaient finalement pas se rencontrer. C'est Anna, puisqu'au départ elle s'appelle Anna, c'est son nom de chrétienne, on va dire.
De fille adoptée.
Oui.
Elle a été adoptée.
C'est la première rencontre. Donc, quand elle sort du couvent à la demande de la supérieure, pour rencontrer cette tante qui est sa seule famille et qu'elle ne connaît pas, pratiquement la première chose que lui dit cette tante, c'est « Ma fille, tu es peut-être religieuse, mais tu es juive. » Donc, premier choc. Et on sent derrière donc, qu'il y a un secret donc, dans cette famille. Cette fille est orpheline. Elle va partir avec sa tante, je résume, à la recherche de ses parents qui ont disparu, qui sont morts, mais on ne sait pas où, et on ne sait pas où ils sont enterrés. Et cette espèce de trame policière qui va durer pendant pratiquement tout le film, à travers une image de la Pologne des années 60.
Oui. Moi, pour moi, ce n'a pas été finalement un film en noir et blanc, ça a été un film gris. Dès le début, j'ai été plongé dans ce gris et j'ai eu beaucoup de mal finalement à avoir une relation avec cette Anna, enfin avoir un lien quelconque sur le plan humain avec cette Anna que j'ai trouvée tellement lointaine, tellement même rigide, en fait immobile.
Inexpressif. Oui, c'est un personnage hiératique, complètement inexpressif. Mais, on a l'impression que tout coule.
C'est ça, ouais.
Rien ne l'atteint.
Elle est toujours verticale.
Mmh. Oui.
Je garde le souvenir de ce film, c'est ses deux mains quand elle prie. J'ai trouvé, elles sont certainement très, très grandes, très longues, ces mains, et je suis frappé par la verticalité. Mais oui, mais je comprends. Après, j'ai compris finalement que c'était normal que ce film soit gris parce que l'auteur a grisé ce personnage. Il a voulu en faire quelque chose de gris et finalement de lointain pour moi, en tout cas.
Oui, moi j'aime
Maggie,
bien,
ensuite Dominique.
J'aime bien que Jean parle d'immobilité, enfin de raideur, oui. Parce que justement il y a une image à la fin qui ne l'est plus du tout quand elle court.
Et oui.
On la voit courir à la fin, oui. Et là, à ce moment-là, on a l'impression que la caméra épouse aussi son mouvement de course.
Oui, mais elle retourne vers sa raideur.
Ah, c'est pas sûr. C'est pas sûr.
Non, moi, laisse. D'abord, on va pas raconter la fin, comme
non,
c'est la
règle.
Je crois qu'il y a un contraste quand même important.
Il y a un contraste.
À cette scène-là, elle a perdu sa raideur. Et moi, je l'ai ressenti comme ça. Bon, mais peut-être que d'autres pensent.
Dominique ?
Moi, je voudrais quand même dire que. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un film magnifique. Pour moi, c'est un film politique. À la fois et à la fois un film intimiste, c'est-à-dire qu'on a quand même la vision de la Pologne tourmentée des années 60 qui sort d'un stalinisme. Et ce qui m'a aussi intéressée, c'est la rencontre entre ces deux femmes qui sont totalement à l'opposé, réunies par un secret et de famille et qui vont aller à la recherche de leur passé. Et chacune va en sortir différemment. Et moi, j'ai trouvé les images absolument magnifiques. Pour moi, c'est un travail d'une grande force cinématographique, un vrai travail de cinéma. Et ce côté... quand on voit des paysans polonais qui massacrent des juifs, enfin, ce ne sont pas les nazis. On voit cette souffrance. Non, on les évoque. On les évoque. Et puis, Wanda a été dans les purges staliniennes.
Wanda, c'est la tante, procureur. À l'époque stalinienne.
Voilà.
Et elle a forcément
et
du
donc,
sang sur les mains.
Enfin, moi, je pense que pour moi, c'est un film austère, certes, mais avec des images très frappantes. Et je le répète, un travail de cinéma remarquable qu'il ne faut pas louper.
Par contre, Jean, justement, cette grisaille que vous évoquez, pas seulement parce que le film est en noir et blanc, mais c'est peut-être aussi lié au aux comme ça aux émotions enfouies hein, qui renvoient comme ça au public une mélancolie assez forte quand
tout
même.
Tout à fait, oui, oui, oui. Je crois que c'est une volonté finalement, ce gris. Moi, j'insiste sur le gris. Le gris, parce que je crois que c'est vraiment l'intention de l'auteur, enfin du réalisateur,
oui.
De nous plonger dans cette atmosphère finalement.
Très mélancolique.
Et en même temps, il règle son compte à la Pologne, règle son compte peut-être sur le plan politique et sur le plan religieux aussi, au catholicisme aussi.
Mais Jean, oui.
Il y a Maggie qui voudrait parler.
Oui, Maggie. C'est pour répondre à Dominique. Pour moi, ce n'est pas un film politique. Pour moi, c'est un film sur une réflexion sur le sens de l'existence. Et c'est
aussi.
Bien sûr dans ce contexte-là. Mais il me semble
que c'est. Je pense qu'il aborde différents sujets.
Aussi bien
aussi.
Que Wanda et Ida se trouvent confrontés à quel sens a leur vie, compte tenu de leur passé, bien sûr. Mais je crois quand même qu'il y a plus que du politique, beaucoup plus.
Mais j'ai bien dit que c'était un film aussi intimiste. Mais alors, c'est vraiment... Si, moi, j'ai vu la Pologne dans les années 60, au sortir de cette horreur stalinienne... Je pense que c'est un pan du film important.
Arlette, un petit mot sur Ida ?
Oui, alors moi je suis très contente d'avoir entendu toutes ces choses positives parce que moi j'ai ressenti que du négatif là. Enfin, c'est peut-être la volonté de l'auteur d'avoir fait un film comme ça, mais ça m'a fait penser à Nuit et brouillard pour le décor. Je trouvais les personnages excessifs dans Wanda dans la dépravation et Ida, j'allais dire dans la froideur, mais on peut dire dans la glaciation. et à la fin, alors on s'attend, après la mort de Wanda, on s'attend à un développement intéressant. Parce que là, tout d'un coup, Ida fait un revirement assez spectaculaire et elle décide d'essayer le monde.
Oui.
Alors on se dit, ça va commencer à balancer un peu. Bon, eh ben non, c'est comme si elle avait eu envie de goûter un plat nouveau, un kebab là qu'elle connaissait pas. Non, mais attendez, elle aime pas et elle retourne à son menu ordinaire.
Ben, je suis pas sûre qu'elle retourne à son menu ordinaire.
Maggie. Moi, il me semble qu'elle aime au contraire, mais c'est pas qu'elle n'aime pas qu'il a fait repartir.
On le voit pas. Hein,
si, moi j'ai.
Non, mais de toute façon, on ne voit rien avec elle. Pratiquement
elle pose quand même des questions.
Tout est intériorisé. C'est intériorisé, c'est ça.
Oui, elle pose des questions qui sont dont les réponses ne lui apportent pas satisfaction. Mmh. Et comme avant, elle a aussi essayé d'être comme Wanda et que ça n'a pas été pour elle très emballant. Mmh. Je pense qu'elle part en courant, mais pour
voir
une
voir ça comme ça. Mais...
Oui, d'accord.
pour vivre autrement.
Mmh. Mais c'est un film en noir et blanc, tu vois. Moi, je ne l'ai pas vu gris du tout.
Ah ben moi, déjà,
après, tout dépend comment on le perçoit.
Mais c'est quand même la couleur dominante, effectivement. Mmh. Dans tout
À commencer
par la robe, la bure, l'espèce de bure qu'elle porte.
Oui.
Et quand on voit la campagne polonaise, pratiquement,
les décors sont très contrastés. Ce que je veux dire, c'est contrasté.
Mais d'après vous, depuis quand n'a-t-on pas vu un si beau film polonais ? Pour ceux qui l'ont trouvé beau.
Ah, oula.
Oh, moi, j'ai pensé au Polanski du Couteau dans l'eau, justement, qui est polonais lui aussi. Je pense que ces films polonais, il y en a eu beaucoup. Qui ont la même atmosphère.
Ça fait penser à ces films polonais, à ces films tchèques aussi.
Oui, sortir de ces années au film tchèque, là.
Les premiers films de Forman, par exemple.
Ouais.
On peut le qualifier comme étant l'un des plus grands films de l'année ?
Non, je dirais pas ça, mais d'une grande force quand même.
Moi, je pense qu'on peut le dire, parce que des grands films de l'année, il y en a une vingtaine tous les ans, au moins.
Ah, ouais. Bon, donc il sera classé parmi les 20.
Je pense qu'il sera dans le lot.
Non.
Enfin, en tout cas, il provoque une méditation, c'est sûr. Moi, il m'a fait méditer parce que sur le coup, je me suis senti tellement loin de ce personnage un peu fabriqué, moi, un peu trop simplifié, fermé sur lui-même, que Oui, à partir de là, je crois avoir compris, en tout cas, l'intention du réalisateur et tout ce que lui porte, parce qu'il paraît qu'il il s'est installé en Pologne, mais il a vécu très longtemps en Angleterre, si j'ai bien compris. Il oui. revient là, c'est son retour à la Pologne.
Son retour au pays, en quelque sorte. Oui.
Au pays, voilà. Alors cas, ça, d'accord, c'est oui. le pays qui a donc été antisémite et finalement d'un catholicisme que il me semble, lui, quand même, met en question dans ses films, non ? Pas tellement ?
Ah oui, quand même.
Maggie, non ?
Je pense que le protestant voit une mise en question du catholicisme. Mmh. Moi, je n'ai pas vu tellement une critique du catholicisme.
C'est pas elle le catholicisme, été, c'est les catholiques.
Elle a été adoptée,
certains catholiques.
Oui,
les catholiques.
Elle a été prise en charge des choix. Petite par oui, le clergé catholique qui l'a recueillie et qui l'a fait adopter. Bon, et puis, effectivement, il y a une espèce de pesanteur de sa situation qui fait qu'elle resterait au couvent. Mais moi, je n'ai pas vu tellement d'accord. une critique du catholicisme.
Oui, il y en a quand même une. Parce que quand, à un moment donné, quand Vanda part de chez le fermier qui a eu cette attitude dégoûtante là, qui dit je vous donnerai l'endroit du corps de vos parents quand si vous me promettez de me laisser la maison. Et Vanda s'en va en se retournant, elle dit voilà vos catholiques, non voilà vos chrétiens, voilà les bons chrétiens.
Ah oui, bien sûr, ça c'est la position de Vanda.
C'est quand même une critique.
De certains chrétiens, de certains catholiques.
Oui, enfin, en tout cas, on peut dire que c'est un film qui ne laisse pas indifférent.
Ah, d'accord.
Oui, moi, je pense qu'il ne faut pas le laisser passer.
Oui et non. Hein, parce que, alors, moi, j'ai vu vraiment des gouttes de pluie glisser sur des plumes de canard, là. Alors, vraiment. Hein.
On va dire que c'est ce qu'on pouvait dire, justement, de Ida, de Pavel Pawlikowski. Deuxième choix retenu pour ce nouveau numéro de Vue à la radio, Les Bruits de Récif, de Kléber Mendoza-Filho. Avec Irandir Santos, Gustavo Yann et Maeva Jinkis. C'est la vie dans un quartier de classe moyenne de la zone sud de Recife. Elle est perturbée par l'arrivée donc, d'une société de sécurité privée. La présence de ces hommes est source de tranquillité pour certains et de tension pour d'autres dans une communauté qui semble avoir beaucoup à craindre. Une chronique brésilienne, une réflexion sur l'histoire, la violence et le bruit.
E esse aí é mudo?
É, não, ele fala. Fala aí, pô.
Você fala, senhor.
E esse olho cego? Tá certo com segurança, isso?
Se brincar, enxergo melhor do que o senhor.
Les Bruits de Recife, film réalisé par Kléber Mendoza. Alors, certains le qualifient comme étant le beau premier film donc de Mendoza. Toutes ces vies entrecroisées des habitants d'un immeuble au Brésil. Qu'en pensez-vous ?
Mm-hmm. Moi, j'ai bien aimé ce film. Il est vrai que j'aime beaucoup le Brésil, que j'aime beaucoup la langue brésilienne. Mais j'ai trouvé qu'il était original dans le fait qu'il montrait la classe moyenne brésilienne. Mm-hmm. Vous me permettrez l'expression, nous bassine souvent avec des favelas, etc., et que je trouve au demeurant. Sujet que je trouve fort intéressant, certes, mais là, pour la première fois, on voit une classe moyenne brésilienne au quotidien. Alors, moi, j'ai trouvé la façon de filmer remarquable. Là, c'est une sorte de Lego Recife, cette nouvelle ville qui naît. Au détriment des quartiers qu'on détruit, et puis à ce qui peut s'apparenter à un ghetto de ces gens. Et ce que j'ai aimé, c'est justement ce quotidien qui est montré à travers plusieurs familles qui vivent là. J'ai aimé aussi le rapport entre les gens aisés, domestiques. Moi, ça m'a apporté, disons, une vision du Brésil qu'on ne montre pas habituellement. Mmh. Et la bande-son est incroyable, remarquable. Que dire d'autre ? Et puis, cette paranoïa sourde, il n'appuie pas, ça reste léger en même temps, mais on sent qu'il y a une paranoïa, une peur, et qu'on peut généraliser à toutes les villes du Brésil. On vit dans une paranoïa. C'est un film, pour moi, sur l'insécurité, avec une violence sous-jacente, et un trouble avec un... On sent que quelque chose est sous-jacent.
Puis l'insécurité dans différents sens du terme, parce que moi, il y a un côté limite science-fiction quand il fait allusion comme ça à des atmosphères quasi vaudou.
Alors, je crois qu'il faut revenir au tout début du film. Ouais. Au tout début du film, on nous montre toute une série de vieilles photos.
Ouais.
Et ça dure. On se demande pourquoi. Donc ça représente en fait des familles d'ouvriers devant les plantations avec les patrons au premier rang, prospères, les autres misérables. Mmh. Donc on pense que, on ne sait pas si sont esclaves ou s'ils ne sont pas esclaves à la limite. Mmh. Et ensuite le film commence et on se demande qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. Et c'est au fur et à mesure donc qu'on comprend que ces rapports qui étaient sur ces photos, ces rapports de maître à esclave, entre guillemets, finalement, on les retrouve dans la société brésilienne actuelle. Mmh.
Mmh. Oui, c'est très subtil.
C'est très subtil. Ouais,
quand Dominique a dit, on a parlé de l'insécurité, moi je pense que ce n'est pas tellement l'insécurité, mais le sentiment d'insécurité. Mmh. Et ce sentiment d'insécurité, il est très très bien montré en images par les innombrables portes à barreaux, les grilles.
On ferme les portes.
On voit les gens derrière des murs et on voit juste leur tête qui apparaît.
Des couloirs,
on voit des gamins qui jouent portes. Dans un tout petit espace complètement entouré de grillages. Et c'est jamais dit que d'une manière explicite, mais on voit bien à quel point il y a un enfermement, mais voulu. Un enfermement qui est autoprotecteur et qui manifeste justement le sentiment d'insécurité que ces gens ont. Par ailleurs, quand arrivent les personnels qui se proposent pour organiser une surveillance dans le quartier, on ne voit rien de très grave, si ce n'est quelqu'un qui a rayé une carrosserie de voiture, on connaît quand même pas mal
qui
ça,
qui
a volé un autoradio, mais c'est pas rien de grave, finalement. Et pourtant, les gens marchent dans cette espèce de peur, et je trouve que justement, les images le rendent énormément, et c'est ça qui est, à mon avis, une des qualités du film. Parce qu'il n'y a pas d'événement majeur, sauf à la fin peut-être.
À la fin, quand même.
Mais c'est vrai que pendant tout le film, il se passe particulièrement.
Non,
c'est le quotidien, c'est les
on
bruits.
Voit le quotidien de la vie.
J'ai beaucoup aimé le titre.
Oui, il y a les bruits, voilà. C'est pas de la musique, il y a tous ces bruits de fond. Au début, ce chien qui n'arrête pas d'aboyer, enfin, les bruits des voisins, etc.
Ça s'appelle le bruit des voisins dans la traduction. Les bruits alentours, voilà.
Les bruits alentours.
Oui, c'est une métaphore sourde de cette violence urbaine, en fait.
Le titre français. Finalement très réducteur.
Oui,
c'est dommage.
Mais c'est vrai qu'il se passe. Alors, ce qui frappe peut-être, mais on le voit en négatif finalement, c'est dans les rues, il n'y a pratiquement personne. Il y a des voitures qui passent et qui ne s'arrêtent pas. De temps en temps, on voit quelques gosses qui jouent au ballon, mais vite, ils sont dans une cour. Effectivement, quand un type se dit arrive en disant vous avez besoin d'une société de sécurité, on se demande pourquoi. Et c'est petit à petit que...
Il y a une espèce de mystère.
Il y a un secret, il y a quelque chose de caché.
Oui, on le sent monter.
Qui monte provisoirement.
Progressivement.
Le réalisateur dit que c'est le quartier dans lequel il vit. Il a filmé là où il vit. Mmh. Et il raconte que quand il va à pied faire 300 mètres acheter du pain, il y a toujours quelqu'un à son retour qui lui propose de le prendre en voiture parce qu'on a l'impression qu'il est en danger, alors que lui, il ne le sent pas du tout. Mmh. Donc, il n'y a pas grand monde dans les rues à cause de ça, justement. Oui. Et les gens se protègent dans leur voiture. Il y a une espèce
c'est une bulle.
Les gens
passent
de cage en cage.
C'est une bulle, la
cage.
Voiture.
Oui.
C'est dans leur bulle.
Ils sont dans leur bulle. Comme dans leurs appartements, ils sont dans une bulle. Mm-hmm. Comme à leur travail, ils sont dans une bulle. Ils sont toujours dans une bulle, en fait.
Mm-hmm. Oui, donc, on sent cette paranoïa comme ça qui est...
Progressivement aussi, le personnage du propriétaire va prendre de l'importance. On va vers la fin du film quand même d'une manière assez intéressante. Quand même. Et on retrouve là, à ce moment-là, les premières images que Claude a citées, des maîtres et des esclaves.
Alors, le seul bémol, moi, c'est que je trouve le film un peu long. Je pense qu'il aurait pu être moins long. C'est dommage.
À un certain moment, on décroche un petit peu.
Non, on décroche jamais. Non. Honnêtement, moi, j'ai trouvé.
Mais on les prit par les aspects anecdotiques.
Voilà, c'est une succession de petites anecdotes.
C'est intéressant, mais on sent bien qu'ils progressivement, on les prit justement par cette ambiance pesante, quand même.
Mais il y a aussi de l'onirique dans ce film. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que chaque fois qu'une de ces scènes commence, on ne sait pas finalement si c'est du rêve ou pas. Et je trouve que c'est très très bien amené de voir à quel point justement une silhouette qui passe par-dessus un mur, ça peut être réel, et puis toutes ces silhouettes qui vont suivre.
Mais c'est pas là où il fait peut-être allusion un petit peu à une atmosphère quasi vaudou, on va dire. Non.
Ah oui,
je connais pas le vaudou.
Moi non plus.
Franchement, non.
J'ai pas ressenti ça.
Moi qui connais le vaudou.
Non. Qui l'a enseigné.
Je peux vous dire. Je sais pas si ça.
Non, mais c'est ça. Mais c'est les images du passé qui ressurgissent. Et on les voit. Par exemple, il y a cette scène où on voit une ombre sur le toit. On sait pas trop.
Oui, c'est les garçons de la fin.
Oui, il y a ces gens qui envahissent l'immeuble aussi à un moment donné.
Mais oui,
on vit dans un appartement.
C'est pas un cambrioleur.
Ouais.
Voilà, c'est ce que disait Maggie. On ne sait pas si on rêve ou si c'est le rêve ou la réalité.
Je pense qu'il faut ramener quand même ce film à l'ensemble du Brésil, où, et notamment à Rio, où là, il y a une insécurité avérée. C'est-à-dire que les gens ne s'arrêtent pas au feu rouge parce qu'ils sont agressés, on enlève les enfants pour leur réclamer une rançon. Enfin, il y a un vrai fait de société qui repose sur une vraie violence. Et...
La Coupe du Monde va être festive.
Ah oui, oui.
Voilà. Donc, mais c'est vraiment un film intéressant à voir.
Je pense qu'il veut nous dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Que derrière la société brésilienne, il y a tout un poids du passé.
Voilà, c'est ça.
Il y a une mémoire.
Qui est une mémoire. Et qu'une image superficielle ne nous permet pas de le voir.
Ouais. On peut dire que c'est un beau premier film de Mano Zambi.
Oui, certainement. Premier long métrage. Et original, justement, par sa facture, il me semble.
Oui.
Mais c'est vrai qu'en sortant, on se dit, comme vient de dire Dominique, c'est un peu trop long. On voit des choses, c'est un peu souvent répétitives. Puis finalement, c'est un film que personnellement, j'ai apprécié davantage avec quelques jours de décalage.
Oui, c'est ça, oui. On chemine avec ce film, au-delà de sa projection.
On continue à le revoir, à le repasser dans sa tête.
Oui, on découvre des choses. Oui.
Donc, c'est ce qu'on peut dire sur les bruits de récifs qui, ils auraient pu peut-être l'appeler, vous avez dit, le
alentour.
Les bruits d'alentour.
Eh oui.
Très bien. Vous êtes sur FM+, sur le 91 MHz si vous êtes sur Montpellier et son agglomération. Sinon, sur le 103.1 si vous êtes du côté de Nîmes et de son agglomération. C'est Alim avec vous, en compagnie de Dominique, Claude, Arlette, Jean et Maggie de l'association Profil Sine Qua Non. On fait une courte pause. On se retrouve juste après pour la suite de votre magazine Vue à la radio, l'émission qui parle 7e art.
Il naufragara mi dolce. In questo mare.
Un bouquet de fleurs à la main, il sort du magasin, il avance de bon cœur. Où va donc cette humeur qui porte un bouquet de fleurs? Donc cette humeur qui porte un bouquet de fleurs. Vers quel rencard, quel amant dans le placard, quel inconnu dans la toile entrevue, quelle fête des mères, quel ami sincère, quelle moitié d'aveu, quel amour qui flanche, quel drôle de cheveux sur sa manche. Où va donc cette humeur qui croit qu'on est dimanche? Va donc cet humain qui croit qu'on est dimanche. Un bouquet de fleurs à la main, il connaît le chemin, il avance de bon cœur. Qu'attend donc cet humain qui porte un bouquet de fleurs? Qu'attend donc cet humain qui porte un bouquet de fleurs? Quel genre de fête,
quel anneau dans la tête, quel cœur qui bat. Elle attendait que ça, sur quelle blessure, quel trou dans un mur. Pour quel adieu, pour décor et quel dieu, en vue d'assouvir quel désir. Qu'attend donc cet humain qui est fait pour le plaisir. Qu'attend donc cet humain qui est fait pour le plaisir.
Vous êtes sur FM+, et vous faites bien. Je suis toujours en compagnie de Dominique, Arlette, Maggie, Claude, ainsi que Jean, de l'association Profil Sine Qua Non. Si vous souhaitez rejoindre cette association fort sympathique, contactez-nous et on se fera un plaisir de vous mettre en relation. Autour de The Grand Budapest Hotel, réalisé par Wes Anderson, avec Ralph Fiennes dans le rôle de Monsieur Gustave, Tony Revolori dans celui de Zéro, Farid Murray Abraham joue Monsieur Mustapha, puis Mathieu Amalric qui est Serge X. Ce film retrace les aventures de Gustave H, l'homme aux clés d'or d'un célèbre hôtel européen, de l'entre-deux-guerres et du garçon d'étage Zéro. La recherche d'un tableau volé, œuvre inestimable datant de la Renaissance et un conflit autour d'un important héritage familial forme la trame de cette histoire au cœur de la vieille Europe en pleine mutation.
Why do you want to be a lobby boy?
Who wouldn't? At the Grand Budapest, sir.
And so my life began. Junior lobby boy in training under the strict command of Monsieur Gustave H. Many of the hotel's most valued and distinguished guests came for him.
I love you.
I love you. She was dynamite in the sack, by the way.
She was 84.
I've had older.
The Grand Budapest Hotel. Alors juste avant de vous céder la parole, un film chic, débridé, hilarant, mélancolique également. Peut-on le qualifier comme étant le chef-d'œuvre de son auteur, Wes Anderson? Maggie, Claude?
Moi, je n'ai vu de lui que le film précédent, Moonrise Kingdom, que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait beaucoup amusé. Mais je suis bien incapable de dire si c'est le chef-d'œuvre, puisqu'il en a fait d'autres, deux autres avant. Et comme je n'ai pas trop aimé The Grand Budapest Hotel, je ne peux pas répondre que ce soit son chef-d'œuvre.
Alors, je vais me tourner du côté de Dominique, alors.
Moi, je pense que c'est son meilleur.
D'accord.
Moi, j'ai adoré ce film. C'est un film burlesque, effréné, qui tient du jeu de loi, du cluedo, du roman feuilleton, de la chasse au trésor, et en même temps qui aborde.
Oui, on est surpris, on s'ennuie pas, quoi, en fait.
Qui aborde aussi des sujets graves comme le basculement de l'Europe dans les années 30, vers ce qu'on sait. Enfin, j'ai adoré ce film. Comme vous l'avez dit, c'est une histoire qui mêle un vol de tableau de la Renaissance, une bataille autour d'une énorme fortune familiale. c'est la distribution est éblouissante. On a ce fameux Ralph Fiennes, je pense qu'on dit Fiennes, Matthew Amalric, Bill Murray, Jude Law, Adrian Brody,
et Harvey Keitel,
Jeff Goldblum.
Oui, mais justement, moi, je trouve ça ridicule. Les critiques ont beaucoup monté en épingle ce fait qu'il y avait plein d'acteurs connus qui apparaissent 3 secondes. Qu'est-ce que ça apporte?
Avec beaucoup d'intensité, ça apporte justement cette ambiance de grand hôtel où passent des célébrités.
Non, mais c'est les personnages qu'ils jouent. C'est les personnages qu'ils jouent. Ils jouent des personnages qui ne sont pas des personnages de célébrité. Léa Seydoux, c'est une soubrette. Enfin, il n'y a pas. Moi, je pense qu'on monte ça en épingle et c'est très amusant, effectivement. Mmh. Mais je ne crois pas que ce soit ça qui fasse la valeur du film.
J'ai pas dit que ça faisait la valeur du film, mais ça fait une des valeurs du film.
Il y a un sacré casting.
Parce que le casting est extraordinaire. Ils jouent chacun leurs 3 minutes, comme tu le dis, avec une intensité, une drôlerie. Enfin, bon, tu n'as pas aimé. Moi, je dis qu'il faut absolument aller voir ce film qui est étourdissant.
Je crois que c'est un côté anecdotique, effectivement, ces personnages. C'est fait un peu pour attraper le spectateur. Hein, c'est une distribution internationale. Ça m'a rappelé un film qui s'appelait Le Tour du Monde en 80 jours. Ça remonte à quelques années en arrière, évidemment, où il y avait toute une pléiade, effectivement, de grandes vedettes du cinéma.
Il vaut mieux des acteurs beaux et remarquables acteurs nuls et moches,
mais
quand même.
Mais on peut aussi trouver des jeunes acteurs nouveaux qui ont une certaine valeur et qui ne sont pas effacés par le nom qu'ils portent. Moi, c'est ça qui me gêne beaucoup quand on utilise des acteurs connus pour des rôles insignifiants. Alors, à ce moment-là, on ne voit pas le rôle qu'ils jouent.
Ils étaient ravis tous d'être là.
Certes.
Ça m'a pas gêné du tout. La seule chose qui m'étonnait, c'est que Léa Seydoux ait pu trouver le temps de jouer un petit rôle là-dedans avec ce qu'elle produit actuellement.
De toute façon, on ne voit pas un film sans Léa Seydoux en ce moment.
C'est exactement ce que je viens de dire. Mais ceci étant, c'est pas le fond du film. Pour moi, c'est un conte. Qui est mené à une très grande vitesse, ça n'arrête pas. C'est un film qui est pratiquement impossible, je trouve, à résumer, tellement il se passe de choses, tellement on voit des gens. Il y a du Spirou là-dedans, il y a du Tintin,
il y a du Tintin, il y a de l'Indiana Jones.
Il y a la bande dessinée.
C'est follement inventif et à la fois c'est mélancolique.
On s'ennuie pas.
On n'a pas le temps de s'ennuyer.
Il est à la fois espiègle et mélancolique.
Et ça va tellement vite, à mon avis. Il y a tellement de choses que j'irai le revoir parce que j'en ai loupé forcément dans le tas.
Mais c'est la vénération du style, du chic, parce que quand on connaît Wes Anderson avec son costume en tweed, sa coupe de cheveux.
Alors c'est un peu snob aussi, c'est vrai.
C'est snob, mais c'est tellement drôle.
Mais Claude, quand vous dites que vous avez loupé certains passages, mais vous avez loupé peut-être les 3 secondes comme ça de différents.
Oui, parce que chacun de ces acteurs fait un peu son numéro. Et c'est ce côté amusant, je trouve. C'est pour ça que moi, contre un Maggie, ça ne m'a pas gêné du tout de voir toutes ces têtes.
C'est étourdissant.
Ce qui est un peu dommageable, c'est que ça va très vite, les acteurs parlent très vite, c'est comme dans un film de Woody Allen, il parle à 3000 tours minute, et alors finalement, quand vous ne connaissez pas l'anglais, et ben alors vous loupez les traductions, et là vous comprenez plus rien. C'est très très gênant, ça.
Oh, on a tout intérêt à comprendre l'anglais.
Ça prêcherait peut-être en faveur du doublage dans des films comme ça, oui.
Mais bon, je vais ajouter, il y a une course-poursuite en luge, le téléphérique, les gâteaux viennois qui sont quand même un élément, les gâteaux viennois qui sont un élément clé dans le film, parce que on s'en dévoilait parce qu'il y a tellement de choses, mais bon, ils servent à les faire évader.
Les scènes de répétition surtout qui sont très
ça va à toute allure.
Et l'air de panache.
L'air de panache qui est le
parfum
français, air de panache, qui est le parfum.
Moi j'aurais mis le patchouli, ça aurait été mieux con. Ça aurait mieux.
Mais je sais pas si c'est pas très anglo-saxon le patchouli, je crois.
Non, c'est plus européen.
Oui.
Mais c'est. Pour moi, c'est un film délicieux. Moi j'irai le revoir par par plaisir. Quoi.
Jean, un avis ?
Ben moi, je l'ai très très mal suivi à cause de ces problèmes de sous-titrage.
De traduction et tout ça.
Par contre, il y a un passage alors que j'ai trouvé magnifique, et je me suis bien régalé, c'est l'évasion. L'évasion, là, on est dans le bobo s'évade, vous savez. Là.
On est dans Tintin, on est dans le sept de Toucar, on est dans...
Dans les Dalton, ou dans les Dalton.
Dans les Dalton.
Oui, et en même temps, parce qu'il ne faut pas le réduire à la bande dessinée, hein, tout de même. Hein,
non, quand même, c'est magnifique.
Il ne faut pas le réduire à ça.
Ouais.
Mais, c'est tellement original, une telle inventivité. Que moi, vraiment, si je dois conseiller un film, je dirais aller voir ce film.
Il y a un rythme fabuleux dans tout ce passage-là.
Et en même temps, une mise en scène millimétrée, le héros qu'ils appellent Zéro, enfin bon...
Les décors
sont beaux.
Je ne sais pas ce qui était vrai ou ce qui était du décor, mais ça...
Quand on a du mal à lire justement le sous-titre...
Oui, on n'a pas le temps de regarder les décors.
J'avais envie de voir un peu mieux le décor fabuleux de cet hôtel.
Oui,
mais
puis l'accent anglais, là, hyper sophistiqué.
Mais c'est quand même un film où on rit beaucoup.
Oui.
Il ne faut pas perdre ça de vue.
Oui, il est assez hilarant. Hein.
Ouais.
Bon... Un dernier mot peut-être pour
allez le voir.
Grand Budapest Hôtel.
Ou le revoir.
Bon, ben, parfait. On passe à la quatrième sélection, Le sens de l'humour, réalisé par Marilyn Canto, sorti le 26 février dernier. Elise vit seule avec Léo, son fils de 10 ans, dont le père est mort. Elle entretient une liaison avec Paul. La relation est chaotique. Elise le repousse aussi violemment qu'elle se sent attirée par lui. Et les deux amants alternent moments heureux, orageux. Malgré tout, Paul et Léo font connaissance et les jours passants s'apprécient de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Le sens de l'humour?
Je dirais que c'est un film où se mène où se mène la réalité et la fiction. C'est un film qui est quand même fortement autobiographique. C'est le premier film de Marilyn Canto qu'on a l'habitude de voir devant et pas derrière la caméra.
Une excellente actrice, en tout cas.
Qui est une excellente actrice, effectivement. Et donc, Antoine Chappé et son compagnon dans la vie aussi, celui qui joue le rôle du futur père, peut-être, on ne sait pas comment ça se passe. Et effectivement, donc, c'est l'histoire de Marilyn Canto, qui est guide dans un musée à Paris, qui a un fils qui a une dizaine d'années.
Qui est même au Louvre.
Au Louvre. qui vit plus ou moins qui est avec son compagnon, donc...
Paul.
Qui est joué par Antoine Chappé. Mmh. Et c'est donc, par petites touches, donc, le quotidien de ces trois personnages qui occupe finalement tout l'écran, on les voit en permanence, les allers-retours, les fâcheries, les engueulades, les retours d'affection.
Je ne parlerai pas du quotidien, moi. Je pense que c'est un portrait d'une femme prisonnière de son passé, de son amour passé, et qui est incapable de sortir de son deuil. Et c'est le réapprentissage qu'elle refuse, le réapprentissage de la vie à deux avec homme.
Elle essaye de s'en sortir.
Elle essaye. Paradoxalement, elle n'est pas battue, elle est en colère, elle est violente, elle en veut à son mari décédé d'être mort. Enfin, c'est avec tout le paradoxe du deuil et des réactions après le deuil. Moi, ça m'a beaucoup touché, d'autant que c'est tout à fait traité en délicatesse. Et ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est l'attitude du petit garçon qui est à la recherche d'un deuxième père et qui, habituellement, les enfants voient d'un mauvais œil la reconstruction d'un ménage, soit d'un père, soit d'une mère. Et là, il pousse sa mère et il est désolé de voir qu'elle ne résiste à ce nouvel amour qui se profile. Mais ça m'a beaucoup touché, j'ai bien aimé ce film.
Mais dans ce film, quand même, le dialogue a une place assez importante. Est-ce qu'on peut dire qu'il est trop écrit au point d'en oublier la mise en scène?
Moi, je trouve pas.
Non.
Non.
Non, je trouve que c'est.
C'est juste. C'est juste, mais c'est un film.
Et c'est un film qui est très émouvant quand même, parce qu'on sent que les personnages, enfin les acteurs, sont vraiment habités par le personnage, comme je vous dis, d'autant plus que c'est bien autobiographique en grande partie. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est cette confrontation quotidienne. Je suis désolé, Dominique. Je pense que le quotidien a une grande importance là-dedans.
Ouais.
Et parce qu'il n'y a pas que la femme. Il y a le garçon. Qui joue un rôle important, qui effectivement n'a pas de père et qui essaye de retrouver le père dans chez le compagnon de sa femme. Cet homme qui essaye de recréer une famille avec les difficultés que ça crée. Et le personnage de Marilyn Canto qui n'arrive pas finalement à faire, qui voudrait bien, mais qui n'arrive pas à faire son deuil. C'est ça. Et tout ça, c'est entremêlé et dans des scènes de la vie quotidienne, je regrette.
Alors, c'est un récit clair et simple, clair et simple, mais est-ce qu'on peut dire qu'il renvoie par moment au cinéma de Maurice Pialat ?
Ah,
oui,
non.
Oui.
Moi, je dirais non, pas ça.
Il
n'y
a pas, de violence Pialat... sous-jacente, comme on trouve dans le film de Pialat.
Banal, quand même.
Tout ça.
Non, oui. Moi, je voulais dire au sujet du titre, le sens de l'humour. J'ai essayé de comprendre, non pas le sens, mais la signification du mot humour.
Et le rapport avec cette histoire.
Et ben voilà.
Le sens de l'amour. Oui. Alors,
j'aurais aimé assister à la présentation du film par Marilyn Canto, que je trouve d'ailleurs absolument remarquable dans tous ses rôles, mais parce qu'elle était là présente au Diagonale quand il a été présenté ce film.
Oui, aussi.
Et déjà, moi, il dit non, mais à Diagonale, elle était présente. Et j'aurais bien aimé justement savoir ce qu'elle entend par ce mot humour. C'est en tout cas, on est très loin
justement,
de l'aspect comique du terme. Quoi.
Mais quel sens ça va donner, oui.
Bien qu'on puisse considérer que ce film est une comédie, quand même.
Mm-hmm.
Oui.
Très bien.
Moi, j'ai pas compris le titre non plus. J'ai pas compris.
Non, Maggie. C'est vrai que par moments, elle prend ça avec un certain humour, ces situations. Elle ne les prend pas au tragique.
Pas du tout,
mais c'est à peu près tout ce que je vois.
Pas du tout.
Enfin, moi, j'ai
bon,
pas
donc
vu
on voit
hein.
pas trop le sens non. qu'elle a voulu donner à cet humour.
Voilà, c'est
bien que
le
c'est le titre
l'amour.
Du film, le sens de l'humour.
Voilà.
Arlette, un dernier mot ?
Non, moi j'ai pas trouvé d'humour non plus, c'est ça qui me gêne.
Ah oui, c'est sur le mouvement, moi. Elle court toujours, la scène d'ouverture, elle court.
Oui.
Elle fuit quelque chose.
Elle court après quoi ?
Elle fuit surtout.
Elle
fuit son passé. Mm-hmm. Mais alors, il y a un rythme effréné quand même. Hein. Elle court,
surtout,
puis elle se dispute, elle part. On voit une femme en plein désarroi qui a un enfant de 10 ans et qui ne sait pas comment.
Oui, mais en fait, Dominique, il faut quand même dire que. C'est pas un film larmoyant du tout.
Non, hein, c'est vrai.
C'est larmoyant, mais c'est un film
qui
sert à pas
grand
chose. Parce que 5 mois après l'avoir vu, moi, vraiment, il m'en reste rien du tout. Hein. Je regrette, mais j'ai aucun.
C'est le deuil, c'est peut-être un film du moment.
Oui, puis, des banalités, quoi.
Puis bon, on peut retenir quand même que Marilyn Canto joue remarquablement dans ce film.
Et oui, voilà, elle est toute en finesse, en retenue, en délicatesse.
Hein,
oui, c'est son personnage que moi j'ai trouvé toujours remarquable dans tous les films où elle joue, ça c'est sûr. Hein.
C'est son scénario qui est banal.
C'est un peu convenu, c'est vrai.
C'est simple quoi comme histoire. Contemporaine
oui,
quand même.
Oui, c'est ça. Il y a une certaine banalité quand même.
Oui,
on est tellement habitué à ce genre de film.
Elle a voulu
faire
un film sur son histoire. C'est peut-être une façon d'exorciser aussi.
Oui. C'est un peu trop français.
Oui.
Très bien. On passe au coup de cœur de Maggie.
Oui, moi je voudrais parler de Weekend au pluriel, hein, de Anne Vilasek, qui est aussi un peu dans la même veine intimiste, une histoire de couple, une histoire de deux couples d'ailleurs. Et dans l'un de ces deux couples, Jean et Christine, il y a rupture. Et je crois que ce qui est très bien montré dans ce film, c'est comment l'autre couple, avec qui ils sont amis depuis des décennies, peut réagir à cette rupture et comment ils peuvent éventuellement ou pas accueillir la nouvelle compagne de Jean et la difficulté pour eux d'être à la fois fidèles à celle qui a été abandonnée, fidèles à Jean qui ne leur a jamais rien fait de mal, et cette intruse qui arrive, et qui arrive justement dans la maison de week-end. Et ça aussi, c'est le deuxième thème du film, très important. La place occupée par la maison dans laquelle un couple a vécu, a construit des souvenirs, et dans laquelle justement une personne étrangère ne peut que se sentir étrangère. Je trouve que c'est évidemment pas un très grand film, il n'y a pas beaucoup d'événements, mais on a vu que c'était pas nécessaire pour que la profondeur psychologique existe. Et là, je pense qu'effectivement Anne Vilasek a très bien rendu ça avec Karine Viard dans un rôle qui est très différent de celui du film Lulu, une femme nue dont on avait parlé la dernière
précédemment,
fois.
Précédemment, oui.
Et elle change justement complètement de personnage. Et je trouve qu'elle est assez admirable dans sa capacité à incarner ce nouveau rôle.
Karine Viard, oui, qui a beaucoup de talent. Un autre mot, Dominique, Jean, sur Weekend, Arlette.
Non, moi je ne l'ai pas vu, mais j'irai le voir.
Oui,
très bien. Bon. Merci Dominique, merci Arlette, Maggie, Claude et Jean. Vu à la radio, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver tous ces experts le mercredi 23 avril prochain. Ils nous apporteront une fois de plus leur vision, leur analyse des films qu'ils ont visionnés. Et si vous souhaitez vraiment rejoindre une association passionnée par le 7e art, l'association Profil Sine Qua Non, contactez-nous, on se fera un plaisir de vous mettre en relation. Chaplin, croyez fortement au pouvoir du rire et des larmes comme contrepoison de la haine et de la terreur. Les bons films constituent un langage international, ils répondent aux besoins qu'ont les hommes d'humour, de pitié, de compréhension. Bonne séance, bon film, bye bye. Oh.